Vous écoutez, on lit pour vous.
La danse, un moyen d'expression pour Normand Newbery. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167 de la revue Paraquad. Avant son accident, Normand Newbery a été DJ et il se rendait dans les discothèques du plateau à Montréal pour danser. C'est donc tout naturellement qu'il a proposé ses services de disque jockey au Centre Lucie Bruneau et a continué à sortir en boîte et danser en fauteuil. Moins souvent, certes, et moins facilement aussi, assurément. Pourtant, quand il l'a pu, Normand a saisi sa chance de danser pour Corpuscule Danse aux côtés de France Geoffroy et a même été administrateur de la compagnie. Citation : J'aime la danse. C'est une forme d'art où je peux exprimer mes émotions, me défouler, être dans ma bulle. Ça me fait du bien. C'est ma façon de partir ailleurs. Fin de citation, répond Normand Newbery quand je lui demande pourquoi ce choix artistique-là et pas un autre. Il compare l'émotion que lui procure la danse à un séjour relaxant au bord de la mer. Et admet que, peut-être, ça répondait à un besoin. Citation, au côté artistique en moi. Fin de citation. Au début de sa réadaptation, après l'accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique, Normand s'est dirigé vers le rugby en fauteuil. Ce qu'on imagine plus facilement le voir faire au premier regard. Pourtant, la musique et la danse lui ont davantage permis de s'exprimer au fil des années. Normand Newbery a rencontré France Geoffroy au moment où elle terminait sa réadaptation, après son accident à l'âge de 17 ans, avant même qu'elle ne crée Corpuscule Danse, la compagnie de danse inclusive qui l'a rendue célèbre. Quand l'APQ a invité France Geoffroy à danser. Normand était administrateur à l'APQ, Association des paraplégiques du Québec, ancien MEMO Québec, et, à l'occasion d'une assemblée générale, avait envie d'inclure des performances de personnes en situation de handicap. Il a invité le peintre Rémi Bonneau, qui peint des toiles avec sa bouche, le joueur d'harmonica et chanteur Raymond Paré, avec son groupe de musiciens, ainsi que France Geoffroy, pour qu'elle fasse une démonstration de danse. Quand Normand a quitté la PQ, il a commencé à s'engager davantage aux côtés de France. Il a participé à des ateliers et aussi à la préparation des spectacles des élèves en donnant son opinion sur la chorégraphie. Citation : Nous voulions offrir aux gens la possibilité de danser et d'essayer une nouvelle activité. Quel que soit le handicap, nous nous arrangions pour que les personnes inscrites puissent bouger. J'ai participé au développement des classes pour les enfants et je me souviens des commentaires des parents. Ils me disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient leurs enfants épanouis comme ça. Ils souriaient davantage au lieu de se renfermer. Fin de citation, se rappelle le danseur. Au début de la création de Corpuscule Danse en 2000, la compagnie proposait des ateliers en fin de semaine. Ils étaient ouverts à tous. Entre 15 et 20 personnes se présentaient. Le but était de prendre plaisir à danser, au-delà du jugement. Normand était l'assistant de France. Il montrait certaines chorégraphies, aidait les participants dans leur coordination et leur déplacement. Des flash mobs, 12 debout et 7 en fauteuil. Avec la compagnie, il créait des tableaux, spectacles de 20 minutes, et aussi des flash mobs. Il se souvient d'une danse réalisée comme ça à la Maison de la Culture Frontenac et sur le belvédère du Stade olympique. Citation : Il y avait 10 ou 12 danseurs debout et 6 ou 7 en fauteuil. On a roulé ce flash mob quelques fois. C'était participatif. On s'amusait et en même temps, on partageait des états d'âme. On essayait de passer beaucoup d'émotions et un message par la danse. Fin de citation, raconte Normand. La danse a permis à l'artiste en situation de handicap qu'il était devenu d'explorer son corps et ses possibilités, de mieux se connaître à la fois physiquement mais aussi intérieurement. Les chorégraphies étaient toujours adaptées aux possibilités des danseurs, bien que le travail de France Geoffroy ait toujours été très professionnel et visuellement très artistique. La pratique de la danse était aussi, pour Normand, une activité sociale très agréable qui lui a permis de se faire de nombreuses connaissances qu'il retrouve de temps à autre. J'oubliais mon handicap. Normand s'est en quelque sorte libéré du carcan du handicap grâce à la danse. Citation : Je pouvais danser seul, sans l'aide de personne d'autre. En faisant de la danse, je bougeais mon bras, j'augmentais mon endurance et mon cardio. Quand j'ai eu mon accident, si on m'avait dit que je pouvais faire ça, j'aurais dit « ça me surprendrait beaucoup ». J'avais de la peine à faire mes activités de vie quotidienne. Mais finalement, j'ai fait des choses et je suis arrivée à transcender mon handicap, à l'oublier pendant un moment. Jusqu'à ce que je sorte sous la neige, que le trottoir ne soit pas adapté et que j'ai besoin d'aide. Fin de citation, s'amuse-t-il. C'était « La danse, un moyen d'expression pour Normand Newbery », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Été 2025, numéro 167, de la revue Paraquad.
Témoignages recueillis. À travers 25 entrevues, voici les impressions des membres de Mémo Québec proches aidants. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad. La question principale qui entourait ce projet pilote était de comprendre quelles étaient les préoccupations et les besoins spécifiques des membres et de leurs proches. Voilà les impressions que Sylvia Diaz a récoltées. Au fil des entrevues, je me suis rendu compte que les personnes que j'interrogeais étaient fatiguées, même épuisées. Elles étaient conscientes qu'elles avaient besoin d'aide. Certaines des personnes que j'ai interrogées pleuraient parce qu'elles étaient épuisées. Mon but était d'être à leur écoute, de faire preuve d'empathie et de leur offrir du soutien. C'est important dans ce domaine. J'ai eu beaucoup de demandes d'aide aux activités de la vie quotidienne et aussi du soutien psychologique, émotionnel. Les proches ne se reconnaissent pas à travers le terme de proche aidant. Ils pensent que ce qui est fait va de soi, mais sont tout de même conscients de toutes les tâches faites pour aider leurs proches. Je ne sais pas si le terme de proche aidant se fait peur, mais les gens ne l'acceptent pas. Ils vivent de la culpabilité. Souvent, les personnes à qui j'ai parlé ne connaissent pas les ressources. Elles ne savent pas où aller chercher l'aide disponible. Un membre m'a contacté pour offrir à son épouse proche aidante et fatiguée des heures de ménage. Dans 90% des cas, les proches aidants n'ont pas eu de soutien psychologique. Soit il n'a pas été offert, soit les démarches n'ont pas été faites. Pour une proche, la seule chose qu'elle demandait était un groupe de soutien en ligne, une plateforme sur laquelle elle pouvait parler. Malgré la détresse et l'épuisement, quels sont les freins à recourir au répit pour nos membres et leurs proches? Le constat de Sylvia. Les membres ont parlé largement de la question financière et comment être proche aidant peut appauvrir la situation financière familiale, surtout quand il y a besoin de faire des ajustements professionnels, de renoncer à sa carrière. La question financière est un frein pour le répit et le chèque emploi-service ne permet pas de le payer, surtout avec les coupures. Même à 8 $ de l'heure, le répit a un gros impact financier, et dans un ménage, ce n'est pas ça qui passe en priorité. Quand le répit est gratuit, il y a une liste d'attente d'une année. Certaines ressources de répit ont des critères d'admission, comme le fait que les proches doivent vivre avec la personne aidée. Les démarches pour faire appel au répit sont compliquées. La paperasse n'en finit plus. Certains membres ont des exigences et des attentes élevées concernant les services. Ils pensent qu'ils connaissent mieux les besoins de leurs proches. Ils ne veulent pas le heurter ou déléguer leurs tâches. Les proches se sentent coupables de laisser la personne qu'ils ou elles aident. Toute leur vie tourne autour de la personne aidée. Le manque de ressources des EESAD, entreprises d'économie sociale en aide à domicile, les oblige à changer souvent de préposé. Or, le lien de confiance est essentiel pour les proches. Le message de Sylvia aux personnes proches aidantes. Il est important d'aller chercher l'information et les ressources disponibles. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux organismes de répit, à s'accorder une pause pour s'enlever une charge mentale et émotionnelle. En vous mettant un peu en retrait, vous retrouverez votre rôle de proche aidant ou de proche aidante un peu allégé. C'était « Témoignages recueillis ». À travers 25 entrevues, voici les impressions des membres de Mémo Québec, proche aidant. Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans le numéro 166 au printemps 2025 du magazine Paraquad.
Une crise sociétale qui touche les femmes en plein cœur. Un texte de Rachel Deschamps, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir. Je n'en peux plus de voir ce gouvernement profiter de notre sens du devoir et de notre bienveillance. Nous vivons une crise sociétale qui touche en plein cœur la présence et le rôle des femmes québécoises dans toute leur diversité. Je vais commencer ce texte en parlant de nos infirmières, mais vous verrez que j'en élargirai la portée. Notre système de santé hospitalier repose bien sûr sur ses médecins et sur leur sens du devoir, mais il repose peut-être encore davantage sur ses infirmières. On le voit très clairement avec les difficultés que connaissent plusieurs établissements à faire fonctionner leur salle d'opération. Dans mon hôpital, Santé Québec a demandé à nos gestionnaires de geler ou de réduire fortement l'affichage de postes d'infirmières et de diminuer le recours au temps supplémentaire obligatoire, TSO. En effet, Radio-Canada rapportait en septembre une baisse de 5,9 millions d'heures travaillées dans le réseau. C'est une drôle de réussite quand, sur le terrain, on ne voit que des besoins. On nous dit cependant que le nombre d'opérations a augmenté, sans qu'on sache si cela inclut l'utilisation du privé ou simplement qu'on a favorisé des interventions plus courtes, électives avec un délai d'attente de plus d'un an. Concrètement, le recours au TSO a diminué, mais sans remplacement. Les infirmières ont un ratio plus élevé de patients et les salles d'opération ferment à 16 heures, faute de personnel. Je travaille aux soins intensifs. Les gestionnaires, sous la supervision de Santé Québec, demandent aux chefs d'unité de soins d'optimiser en tout temps le ratio infirmière-patient. Même si, sur le terrain, nous voyons qu'il faudrait créer de nouveaux postes, on nous les refuse parce que le ratio n'est pas jugé assez performant. Cependant, aux soins intensifs, on ne peut pas gérer une unité comme une chaîne de production. Le taux d'occupation varie et notre performance devrait se mesurer à notre capacité d'accueillir un patient gravement malade à très court préavis. On a oublié le patient dans cette façon de procéder. Je tiens à le dire. Notre équipe d'infirmières, d'inhalothérapeutes, de commis, de préposés et de personnel d'entretien est exceptionnelle. Mais pour bien faire notre travail, il faut être assez nombreux. En ce moment, le moral est bas. Le stress vient surtout de l'extérieur de l'unité. Chez certaines infirmières d'expérience, cela mène à des départs précoces. On a éteint leur flamme, petit à petit. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le projet de loi 101, adopté 2 jours avant la loi 2. C'est une loi omnibus qui, tout en corrigeant certaines choses, affaiblit la santé et la sécurité au travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, là où les risques psychosociaux, la surcharge et la violence sont élevés et où l'employeur est justement l'État. En effet, le projet de loi crée un chapitre spécial pour certains établissements des secteurs de l'éducation ainsi que de la santé et des services sociaux. Cela s'applique à Santé Québec, aux établissements privés conventionnés, aux établissements de santé regroupés, à certains centres de services scolaires, donc au secteur de l'éducation. Les centrales syndicales, CSN, CSQ, FTQ, CSD, reprochent au gouvernement de créer, par cette loi, des règles moins exigeantes pour la santé, les services sociaux et l'éducation, alors qu'il s'agit de secteurs majoritairement féminins. Elles estiment que le gouvernement contourne sa propre loi de modernisation de la santé et de la sécurité au travail. Dans la loi, le gouvernement justifie ce choix par le fait que les réseaux de la santé et de l'éducation sont hyper centralisés. C'est donc présenté comme une difficulté administrative. Dans des réseaux aussi vastes, on standardise et on limite la négociation au cas par cas. Le projet de loi prévoit d'ailleurs que ce chapitre cessera de prendre effet à la date que le gouvernement déterminera et qu'un rapport devra être déposé au plus tard le 1er octobre 2029 pour décider si ce régime spécial est maintenu ou modifié. La justification, implicite, est donc qu'il s'agit d'un régime transitoire le temps que ces réseaux s'adaptent. Je cite Jennifer Macaroni, députée de l'opposition, lors de l'adoption du projet de loi fin octobre. La mise en œuvre d'un régime de prévention affaibli et limité pour les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux publics, qui sont pourtant des milieux fortement à prédominance féminine, 80% dans le réseau de la santé, 75% dans le réseau de l'éducation, est vraiment un recul majeur et discriminatoire. Je dois exprimer ma déception que nous n'ayons pas pu entendre la FIQ, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Mon collègue avait déposé une motion préliminaire pour faire entendre ce groupe qui représente quand même 80% des femmes dans le marché du travail du réseau de la santé. C'est un projet de loi qui aura un impact majeur sur la vie des femmes, alors leur témoignage aurait été pertinent, percutant et nécessaire pour bien comprendre l'impact sur les réseaux et sur les femmes. Cela veut dire que les réseaux privés vont avoir plus de protection en matière de santé et de sécurité que les réseaux publics, où le gouvernement est quand même l'employeur et où nous devrions donner l'exemple. Je sais que cela ne fera pas l'unanimité, mais cette loi me fait penser à la loi 21, adoptée en 2019, qui limite le port du voile pour certaines personnes travaillant pour l'État. Ici aussi, on s'attaque à des femmes bien éduquées et pleinement participantes à notre société au nom d'une certaine conception de la laïcité. Or, une vraie société laïque devrait intégrer la pluralité religieuse et ne poser des limites que lorsque des pratiques vont réellement à l'encontre de nos convictions collectives, pas simplement parce qu'un symbole dérange. Maintenant que François Legault a dévoilé son plan économique, la logique me semble assez claire. Moins d'argent et plus de contrôle sur nos systèmes publics majoritairement féminins, santé et éducation. Plus d'argent et plus de liberté pour les hommes d'affaires. Son projet de loi 101 sur la santé et la sécurité au travail, qui exclut les travailleurs de la santé et de l'éducation, va également protéger le privé. En santé, cela facilitera l'appropriation des pastilles vertes et des chirurgies électives par le secteur privé. Je ne crois pas que cela ressemble au Québec dont nous avons osé rêver. Le premier ministre Legault est notre Trump québécois, celui qui nous isole dans notre économie en pointant les immigrants, les femmes et les élites, experts et médecins, comme étant le problème. Je n'en peux plus de le voir profiter du sens du devoir et de la bienveillance de toutes les femmes travaillant dans nos services publics. Ce que nous vivons actuellement au Québec n'est donc pas seulement un mépris à l'égard des médecins. C'est un mépris pour l'ensemble de notre réseau public, composé majoritairement de femmes, dont beaucoup prennent soin de nos enfants, c'est-à-dire de notre avenir collectif. c'était « Une crise sociétale qui touche les femmes en plein cœur », un texte de Rachel Deschamps, paru le 14 novembre 2025 dans Le Devoir.
Violence faite aux femmes autochtones, trop peu d'action du gouvernement, dit le VG. Un texte de Marie-Emma Parenteau, publié le 10 décembre 2025 sur le site de Radio-Canada. Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick dénonce la lenteur de l'appareil gouvernemental pour mettre en œuvre ses engagements visant à lutter contre la violence faite aux filles, femmes et personnes issues de la communauté LGBTQ+ autochtone. Paul Martin en vient à la conclusion que le ministre de l'Égalité des femmes ne dispose pas de système et de pratiques adéquates pour donner suite à un rapport provincial en réponse à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Seuls 10 % des engagements ont été complétés. Il soutient que seuls 10 % des 39 mesures ont été achevées en 2 ans. Pourtant, toutes les mesures auraient dû être réalisées entre 2023 et 2025. Certaines de ces mesures portent sur les ressources en matière de violence domestique, les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances et les interventions policières plus efficaces. Selon Paul Martin, trop de temps s'est écoulé et il faut maintenant revoir les engagements pris dans ce dossier. De plus, les comités de surveillance pour analyser la progression de ces mesures, dont l'un est composé de membres des Premières Nations, ne se sont pas réunis depuis le lancement du plan en 2023. Il n'existe donc pas de processus pour évaluer les prochaines étapes à prendre, actualiser le plan ou évaluer son impact, dénonce Paul Martin. Ce plan provincial, intitulé « Tisser nos voies ensemble », prévoit des mesures confiées à plusieurs ministères. Mais c'est le ministère de l'Égalité des femmes qui est chargé de coordonner le tout. C'est pourquoi Paul Martin a décidé d'auditer ce ministère durant la période allant du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025. Un manque de ressources. Paul Martin ajoute que le ministère de l'Égalité des femmes s'est vu confier la responsabilité de coordonner la mise en œuvre du plan sans recevoir de fonds supplémentaires. Le gouvernement lui a demandé de fonctionner dans le cadre des affectations budgétaires existantes, écrit-il. Ce manque de ressources humaines et financières peut limiter la mise en œuvre du plan, sa surveillance et l'analyse de son impact. Le vérificateur général note toutefois que 11 nouvelles initiatives ont été lancées, en plus des 39 mesures initiales. Mais comme le plan n'a pas été mis à jour depuis son lancement, il ne tient pas compte de ces nouvelles initiatives. Pas de données sur le nombre de femmes victimes de violences. Le plan provincial contient des mesures visant à réduire la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes autochtones et issues de la communauté LGBTQ+. Toutefois, Paul Martin affirme que le ministère ne dispose pas de données sur le nombre de femmes et de filles autochtones disparues ou assassinées au Nouveau-Brunswick. Sans ces informations, il n'est pas possible de déterminer si le plan réduit la violence. Paul Martin précise que les plus récentes données de Statistique Canada indiquent un taux de violence 6 fois plus élevé chez les femmes autochtones que dans la population générale. Toutefois, le ministère de l'Égalité des femmes précise que la collecte officielle de données sur le nombre de femmes et de filles autochtones victimes de violences par le biais des statistiques nationales et provinciales n'est pas fiable en raison de la suppression de données pour des raisons de confidentialité. 11 recommandations. Le vérificateur général fait donc 11 recommandations au ministère de l'Égalité des femmes que celui-ci a tout accepté de donner suite. Celle-ci inclut un calendrier de réunions pour le groupe de travail chargé d'assurer la mise en œuvre du plan, une analyse des ressources humaines et financières, l'implantation d'un processus qui peut examiner le plan et le mettre à jour, et la création d'indicateurs de rendement pertinents, entre autres. La ministre responsable de l'Égalité des femmes, Lynn Chantal Boudreau, dit avoir déjà rencontré l'équipe du ministère. « Nous avons déjà entrepris certaines actions, rencontré différents ministères, aussi pour discuter de la situation, et voir aussi comment nos personnes, nos femmes, nos communautés autochtones vont être au centre de ces discussions-là. » Le ministère indique aussi qu'il s'engage à une plus grande transparence dans ce dossier, souhaitant publier des rapports sur les mesures prises d'ici juin 2026. De son côté, la porte-parole de l'opposition en matière d'égalité des femmes, Tammy Scott Wallace, se dit très déçue de voir que peu de progrès a été fait dans ce dossier. De toute évidence, le rapport n'a pas fait l'objet d'une attention suffisamment grande et le personnel du ministère est très réduit. C'était « Violence faite aux femmes autochtones, trop peu d'action du gouvernement », dit le vérificateur général. Un texte de Marie-Emma Parenteau, publié le 20 décembre 2025, sur le site de Radio-Canada.